Bon, plusieurs calculettes en marche alors. Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Ah, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Les 37 qui coûtent le plus, ouais. Donc, alors par exemple la deuxième, en fait je sais même pas ce que ça veut dire.
Bah, c'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions, la cession mobilière c'est quand vous prenez des bénéfices, vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérable.
Alors j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait on comprend pas trop, les niches fiscales c'est en milliards, donc on comprend pas trop ce que ça veut dire des milliards.
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire qui est de 18% d'impôt sur revenu, plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Oui, aïe, aïe.
Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt.
L'abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je sais pas ce que c'est.
Donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif.
En fait, je sais même pas ce que ça veut dire.
La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois, vous avez un principe, des dérogations au principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre.
Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous quand même.
Je vais tout de suite l'épouser là.
Oui, aïe aïe.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. Fiscalité, la fabrique des inégalités. Vive l'impôt!
Ah, voilà Daniel, je pense que j'aurais pu commencer ce reportage à peu près n'importe où. J'aurais pu le commencer dans une cantine scolaire avec des salariés précaires. Ça monte là, je suis en vélo et ça monte. Et j'aurais pu le commencer dans une maternité qui ferme à la campagne. J'aurais pu le commencer aux grèves d'un tribunal qui croulerait sous les dossiers. Mais comme je suis paresseux, je vais le commencer juste au-dessus de chez moi, à Amiens. Je m'en vais à l'hôpital. L'hôpital Saint-Victor. Parce qu'à l'hôpital, cette année, à Amiens, il y a eu le premier plan de licenciement. 165 postes, je crois. Non seulement les départs en retraite ne sont pas remplacés, mais en plus, il y a eu des licenciements. Je vais juste aller poser une petite question.
Voilà, vous avez compris où nous sommes aujourd'hui avec François Ruffin. On s'est dit quand même un jour, il faudrait qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne, ces histoires d'impôts. Quand on dit impôt, on pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, mais vous savez bien qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'impôt sur le patrimoine, il y a les taxes diverses et variées, dont la TVA, il y a toutes sortes de cotisations. Tout ça, ça constitue les impôts et c'est la chose dont on n'aime pas trop parler. Nous sommes impôtophobes et nous ne sommes pas les seuls. C'est une très vieille histoire que celle de l'imposition. Depuis bien longtemps, c'est le roturier, c'est le petit ou le petit moyen qui paye davantage que le noble ou l'ecclésiastique, bien évidemment, malgré la Révolution française qui a voulu abolir les privilèges, les privilégiés, le reste, parce qu'ils s'arrangent pour ne pas payer d'impôts, et comme ils ne payent pas d'impôts, ou moins, ou peu d'impôts, ben, ils restent privilégiés. C'est le cercle magique, c'est la roue des privilèges. Or, cette roue, eh bien, On la voit tourner, on sait très bien qu'elle tourne, et on ne s'en soucie pas davantage que ça, sauf qu'on est contre ces impôts. On oublie qu'il y a un lien, bien sûr, entre les impôts et la pauvreté, et un lien avec les inégalités. Il y a même directement un détriment entre ces privilégiés qui ne payent pas d'impôts et ces infirmières qui se font virer. Puis on fera un autre rapprochement. On a voulu en savoir plus sur un autre rapprochement, sur un autre lien et sur un autre détriment, sur l'état des finances publiques qui sont en piteux état, ce dont on nous rebat les oreilles. Eh bien, cet état piteux des finances publiques, c'est d'abord parce qu'elles ont été ruinées par la politique de baisse des impôts conduite depuis 10 ans, et non pas à cause de cette crise, une chose vague, la crise économique, c'est à cause de la crise. On va apporter aujourd'hui, jusqu'à 16h, dans la basse, si j'y suis, un éclairage différent. Fiscalité, la fabrique des inégalités, vive l'impôt!
Les gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poire et de ballot. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou, et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclare rien, pas plus leurs 5 chevaux que leurs bonnes ou leurs chiens. Afin de les forcer à faire tous leurs devoirs, je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes 2 larbins, ta cuisinière et ta villa d'Honolulu, ton cheval et ta bicyclette, ton frotteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta DSF et ton cabot, et l'or que t'as sur les molaires de ton vieux jardinier barbu. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus?
Mais et vous, alors, vous faites quoi dans l'hôpital?
Moi, je suis infirmière.
Et dans votre service, il y a trop de monde aussi?
Ah, dans mon service, il n'y a pas trop de monde. Il y a trop de patients et il n'y a pas suffisamment de personnes pour les accueillir comme il se doit. Enfin, moi, quand je reçois des gens et que je ne peux pas le consacrer le temps que je voudrais à les écouter, que j'ai l'impression de faire un travail à la va-vite, ça ne peut pas être satisfaisant personnellement, ni pour moi, ni pour les gens que j'accueille.
Il ne faut pas qu'on occupe tout le temps à parler, il faut aussi savoir les écouter, quoi.
Instituteurs, infirmières, pompiers, policiers, c'est bien tous ces métiers, hein, c'est noble, c'est nécessaire, on est fiers de nos infirmières, de nos instituteurs, parfois même de nos policiers, toujours de nos pompiers, etc. Ben, tout ça c'est des fonctionnaires. On dit, ah, les fonctionnaires, ben oui, mais tous ces gens-là sont des fonctionnaires. Et il s'agit de s'en séparer, enfin du moins d'en réduire le nombre. On sait ces politiques qui sont en marche et qui avancent comme un rouleau compresseur qui détruit ses emplois et ses services et ses protections, et qui se font ces destructions au détriment des trésors publics, des biens publics, des impôts et de la fiscalité. Il y a un lien direct entre tout ça et... En voici la preuve.
J'ai vu qu'il y a eu un plan de licenciement là, depuis le début de l'année, c'est ça?
C'est un plan de licenciement déguisé.
C'est la première fois que ça se passe ça, ou...
Oui, c'est le premier plan, mais on sait qu'il va y avoir une deuxième session parce qu'il faut atteindre ce qu'on appelle un contrat de retour à l'équilibre. Un déficit oblige, on supprime des emplois pour faire des économies.
Et il faut supprimer combien d'emplois là alors?
160.
283 étaient prévus. Donc, à l'avenir, ils vont remettre en place un deuxième plan pour arriver aux 283.
Et alors, comment ça se fait qu'on a besoin de... Il n'y a plus assez de boulot ?
On en a beaucoup trop, là. Vous allez nous faire mourir de rire. Non, non, on a beaucoup de travail. Simplement, quand on a un certain budget qui est revu à la baisse, la seule chose sur laquelle on peut toucher, puisque bon, il y a tous les investissements de matériel et tout ça, c'est sur la masse salariale. Donc, il faut être plus productif avec moins de personnel et moins d'argent.
Donc, vous diriez, à la place de supprimer 283 emplois...
Embauchons.
Est-ce que vous faites le lien entre ça, les 283 suppressions de postes à l'hôpital, là, au CHU d'Amiens, et la feuille d'imposition de Liliane Bettencourt?
Oh, arrêtez. C'est pas possible. Bien sûr qu'il faut faire le lien. Elle a des cadeaux aussi, le bouclier fiscal, l'État lui a remboursé de l'argent.
Si jamais Liliane Bettencourt, elle payait ses impôts sans niche fiscale, normalement, combien de postes d'infirmiers, vous savez combien ça ferait à peu près?
Je sais pas, j'imagine même
vous
pas.
Vous voulez pas une division là? Vous avez pas une calculette là dans le coin?
Oh, on a tous des portables avec des...
Comme on vieillit, je conseillerais à mes copines et mes copains d'en faire autant parce que j'ai peur d'être un peu défaillante, vous savez.
Bon, plusieurs calculettes en marche alors. Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Ah, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Voilà, donc on est à bien avec 400 millions. Je
oui.
Crois que c'est 408 millions, mais enfin...
On ne va pas chipoter pour 8 millions. Hein.
Voilà, on n'est pas à 8 millions près. Le bouclier fiscal, normalement, c'est 1 euro sur 2. On ne doit pas donner plus de la moitié de son argent aux impôts.
Oh, bah,
donc on va dire qu'effectivement, on lui en laisse la moitié. Ça
elle
fait
200 millions.
200 ouais. millions. Là, elle paye pour de vrai 34 millions d'euros par an à peu près.
Là, ça devient compliqué.
Bah, vous enlevez 40. Allez, on enlève 40 millions.
40.
On dit qu'elle paye 40 millions en moyenne.
Alors, on va mettre 160 millions.
Divisé.
Oui.
Combien touche une infirmière en début de carrière?
1000. Allez, on va mettre 1500 euros.
Divisé par 1500.
Là, ça va aller mieux, j'arrive mieux à gérer les zéros.
Divisé par 12 maintenant pour avoir sur une année.
Le problème, c'est les chiffres derrière. Alors, ça fait 8888, on dira 8889 infirmières. Par an.
Mais là, on n'a pas compté les charges, enfin les cotisations.
Ah, j'aime pas le mot charge.
Les cotisations, c'est combien?
Ouais, enfin, ça fait 4000 à peu près, 4200 infirmières.
Et voilà. Donc, si elle payait normalement ses impôts, on y aurait 4200 infirmières possibles en plus.
Ben, les copines, il y aurait beaucoup plus de monde. Hein.
Ça ferait un bien fou à plusieurs hôpitaux, hein, à plusieurs CHU. Mm.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Service de presse, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je prépare un sujet sur les impôts.
Oui.
Et j'aurais voulu demander à l'administration à Bercy, je commence par un petit truc sur l'affaire Bettencourt. Et j'aurais voulu avoir deux vérifications. Savoir si elle était bien taxée à hauteur de 9%.
Alors, écoutez, je vais demander à un conseiller de vous rappeler. Ils sont en pause déjeuner pour le moment. Donc, affaire Bettencourt.
Voilà, j'aurais une deuxième question sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans. Savoir si c'était bien vrai ce qui était paru dans la presse, quoi.
Super.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Et moi, bonne journée.
Au revoir, monsieur.
Une enquête sérieuse, mais c'est difficile hein, d'avoir ce genre de précision et d'être précisément renseigné. Très héroïque, hein, le métier de reporter à la base, j'y suis. Alors, autre chose dont on parle beaucoup sont les niches fiscales et l'optimisation fiscale. Voilà des mots jolis, niche fiscale, c'est gentil une niche, voilà, je te fais une petite niche, ou la niche du chien-chien, c'est gentil. Optimisation, c'est sympa aussi. Optimisation, voilà, on va optimiser. C'est des mots sympas. Et on a voulu savoir ce que ça cachait un peu ces mots-là en interrogeant Liem Wang Gok, qui est un économiste bien connu, est très précis sur ce domaine. Il est l'auteur de Vive les impôts et d'une histoire aussi édifiante des impôts.
L'affaire Bettencourt nous a montré que la troisième fortune de France était seulement taxée à hauteur de 9%. Avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, elle qui touche 408 millions d'euros à peu près chaque année, elle en laisse un peu moins de 40 millions au fisc. Donc un peu moins de 10%, aux alentours de 9%. Quand je vais à l'hôpital Nord à Amiens, je trouve un infirmier qui lui paye 12%. Moi, j'ai été à 15% avant d'avoir un enfant. Je ne sais pas vous, à combien de pourcents vous êtes...
Je crois qu'il est autour de... Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt. Donc, d'où vient la différence? Elle vient tout simplement du fait que les niches fiscales permettent aux riches de diminuer considérablement leur impôt, si bien que, proportionnellement à leurs revenus, ils payent beaucoup moins que les pauvres.
Alors, j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait, on ne comprend pas trop. Les niches fiscales, c'est en milliards, donc on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, des milliards pour des gens comme moi. Quand on sort la calculette, on ne sait même pas combien de zéros il faut mettre pour que ça donne des milliards. Donc, j'ai fait un petit truc sur les niches fiscales. J'ai les 37 dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu. Les 37 qui coûtent le plus. Donc, alors par exemple, la deuxième, en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie. Donc ça revient à 3,2 milliards. Donc, j'ai calculé en poste d'infirmière. Un poste d'infirmière, ça coûte à peu près 36 000 euros par an. Ça fait 100 000 postes d'infirmière. Là, abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait 1 790 millions. Donc ça fait 50 000 postes d'infirmière. Là, vous comprenez ce que c'est, vous? L'exonération des gains de cession de valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne par action?
C'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions. La cession mobilière, c'est quand vous prenez des bénéfices. Vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérée.
Ah d'accord, j'avais même pas compris, moi. Et donc ça arrive. C'est 30 000 postes d'infirmières, ce truc-là.
Oui.
Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. On est à 1 milliard 260 millions, ça fait 40 000 postes d'infirmières.
Parmi les niches que vous avez citées, ce sont des niches qui profitent essentiellement aux classes riches, aux épargnants et aux entreprises.
De quand ça date toutes ces niches fiscales là? Parce que maintenant il y en a un paquet. Il paraît qu'il y a 486 niches fiscales. Là j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a 486. Finalement c'est comme si on avait un gruyère, c'est l'impôt sur le revenu. Et au fur et à mesure, on fait des trous dans l'impôt sur le revenu et à la fin, il n'y a presque plus que des trous, quoi.
Absolument. Voilà, et ça profite à 86% aux riches.
Si on veut augmenter les impôts dans notre pays... Hein,
France Info, il y a 17 mars 2009.
Tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l'embarras du choix aux prochaines élections.
Nicolas Sarkozy.
Alors, s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. Ce n'est pas de les faire partir. D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter les impôts pour qu'il y ait de la justice sociale, depuis des années qu'on augmente les impôts dans notre pays, gauche-droite confondu, on devrait être le pays le plus juste au monde.
Pinocchio, le nez du président doit s'allonger. Il est absolument faux de dire que les impôts ont augmenté durant les 10 dernières années. C'est absolument faux. Et c'est un rapport de l'Assemblée nationale qui le montre et qui le démontre. L'État a perdu plus de 100 milliards d'euros de recettes fiscales en 10 ans. Cette information peut circuler. Rien à faire. C'est Pinocchio qui a le dernier mot jusque-là. Et c'est quand même préoccupant parce que ce qui est juste dans ce que dit notre président de la République, c'est que c'est gauche-droite confondue, en effet. C'est en l'année 2000 qui a été marquée par une rupture dans l'orientation de la politique fiscale de la France. Et on a là la véritable origine et la source du déficit des comptes publics.
Ça a déjà été taxé pour 2006-2007. Ouais, c'est assez classique. Mais alors, je sais pas. Bon, moi, je sais pas si ça va avoir quelque chose avec le blanchiment ou autre. Bon, on verra bien. D'accord,
avec plaisir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Maître Serazek, vous êtes avocate fiscaliste à Paris. On se trouve là, avenue Montaigne, dans votre bureau. Alors, vous intervenez notamment dans les conflits avec l'administration fiscale. Voilà, je suis un riche héritier. Je possède notamment des parts importantes dans des grandes entreprises. Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous quand même.
Je vais tout de suite l'épouser là.
Donc je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. J'ai bien sûr, bon, je vis modestement, entre guillemets. Je dépense, j'ai beau lire le Financial Times dans lequel il y a un supplément How to Spend It, comment le dépenser. Je ne dépense qu'à peu près 10 millions d'euros chaque année. Voilà, je n'ai pas besoin de me construire un yacht tous les ans. Donc en fait, bon, bah, il y a 390 millions que je n'utilise pas. Ça vient sur mon compte en banque. Je ne sais pas trop comment ça se passe exactement, mais ça m'arrive sur mon compte en banque par centaines de millions. Je suis imposé là-dessus assez lourdement. Je ne sais pas trop à quelle hauteur, je ne m'intéresse pas trop à ces questions financières très exactement, mais à quelle hauteur d'après vous
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire qui est de 18% d'impôt sur le revenu plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Donc 30% de 390 millions, bon, ça fait aux alentours de 120-130 millions, je pense, un peu plus de 100 millions. Mm-hmm. Voilà. Je laisse à peu près 100 millions chaque année à l'administration fiscale. Mm-hmm. Et bon, on m'a dit qu'il y avait moyen de diminuer un peu ça.
Et un peu, vous oubliez qu'on va payer de l'ISF, parce que si vous retrouvez un compte bancaire de 390 millions d'euros, vous devez le déclarer à l'ISF.
Oui, aïe, aïe. Enfin, quelle est l'idée que vous auriez pour que je cesse de laisser 50% de mon revenu ou 100-200 millions d'euros chaque année au fisc?
Ah, mais il faudrait monter des structures type holding patrimonial, il faudrait le mettre dans l'assurance vie, il faudrait le placer et il faudrait investir en liquidité, en assurance vie ou dans le cadre d'une société holding.
Alors c'est quoi cette société holding?
C'est un outil d'optimisation fiscale, un outil de gestion du patrimoine, c'est un outil aussi d'exonération d'ISF. C'est un outil d'optimisation fiscale.
Et alors, dans mon cas, qu'est-ce que ça changerait?
Ah bah pour vous, vous ne payez pas du tout d'impôt dans ce cas-là. Et donc, ça vous ferait un taux d'imposition à 1,66, qui peut être réduit à zéro, évidemment, si la holding a des frais de gestion.
D'accord. Donc là,
les dividendes, ils sont quasiment exonérés.
Sur les 400 millions, je prends mes 10 millions dont j'ai besoin, parce que j'ai besoin de ces 10 millions.
Vous avez besoin de vie pour vivre, absolument.
Donc, sur ces 10 millions-là, je vais être taxé là
vous à hauteur. Taxé et encore parce que si vous les placez en liquidité dans un compte actif liquidité style SICAV ou autre, vous arrangez pour faire une très faible plus-value, ben vous ne paierez quasiment pas d'impôts. Vous pouvez arriver à zéro impôt. Vous savez, la France, elle peut être un paradis fiscal pour les gens qui s'organisent très bien, tout à fait légalement et qui ont des bons conseillers fiscaux. La France s'apparente à un paradis fiscal. Un paradis fiscal, entre guillemets, par certains côtés.
Eh bien, écoutez, malgré la grisaille du temps dehors et la pluie qui tombe, vous me rendez le sourire, quoi.
Faut pas désespérer.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Allô ?
Allô, bonjour.
Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
J'avais oui, monsieur ?
Ruffin.
R-U-2-F-I-N.
Exactement.
Votre prénom ?
François.
François, d'accord.
Et j'avais déjà laissé un message et on devait me rappeler.
Vous avez laissé un message quand, je peux savoir ?
Il y a une semaine. Je ne prends pas de notes avec autant d'exactitude que vous.
Quoi. Alors, attendez, je fais juste une petite recherche. Oui, tout à fait. Alors, quand vient de l'affaire Betancourt, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'était pour savoir si c'était bien vrai qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans et les chiffres qui étaient annoncés dans la presse d'une taxation de ses revenus à hauteur de 9%. Je voulais savoir si c'était des informations exactes ou pas.
D'accord. Ne vous inquiétez pas, je lui fais une petite vidéo de rappel.
Je vous remercie.
Mais je vous en prie.
Au revoir.
Maître Serazek, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du cas de l'affaire Betancourt ? Ça vous...
Elle a récupéré ce à quoi elle avait le droit. Donc, elle a payé beaucoup d'impôts, elle a fait jouer le bouclier fiscal. En plus, elle avait une société, probablement une animatrice holding, et elle a payé ce qu'il fallait en toute légalité. Je ne défends pas particulièrement Madame Betancourt, mais je veux dire, le fait qu'on lui restitue 30 millions d'euros, c'est l'application de la loi.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette loi, là ? Vous la mettez en application. Vous
avez... Je la mets en application, j'applique les dispositions de l'article 1er.
Vous avez des dossiers sur votre bureau de personnes à qui vous avez fait bénéficier du bouclier fiscal. Donc, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette loi ?
Je pense que le système fiscal français est très, très, très compliqué. La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois, vous avez un principe, des dérogations au principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est source d'inégalité entre les contribuables. Parce qu'il y a quand même ceux qui sont armés, qui savent s'organiser, qui savent se faire conseiller, etc.
Qui viennent voir Maître Sirazek.
Par exemple, il n'y a pas que moi. Et ceux, finalement, qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas bénéficier de régimes dérogatoires ou de réduction d'impôts parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens de par la complexité même du système d'imposition français. Et ce système d'imposition, il doit être absolument, absolument revu, simplifié, corrigé.
C'est-à-dire que là, on a normalement, l'impôt est supposé être progressif. Et ce qu'on découvre de temps en temps...
Il est plus progressif. Il est plus progressif puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des contribuables qui devraient être imposés au taux marginal de 40% et qui peuvent l'être à 9, à 8, à 7, à 5...
Madame Bettencourt apparaît comme étant taxée, on va dire, entre 5 et 10%, grosso modo. Et moi, je regardais, bon, avant d'avoir un enfant, j'étais taxée à hauteur de 15,5%. Bon, maintenant, je suis descendu en dessous. Vous êtes à combien ?
Ah, moi, je suis à 25%.
Ben voyons, vous n'êtes pas douée, alors.
Ah non, moi, je m'occupe pas de mon... Moi, je veux payer de des impôts, hein, donc pas de souci. Je ne cherche pas à optimiser...
Voilà, là, on a l'impression que l'impôt, il n'est pas plus progressif, mais il est régressif. Vous payez 25%, bon, l'infirmier en paye 12, moi j'en payais 15,5, maintenant je suis en dessous.
Parce que ce sont des salaires ou des honoraires, donc c'est des revenus du travail. Donc nous on paye plein pot. Mais à partir du moment où on a un patrimoine très important, on structure le patrimoine, et là on arrive à réduire son taux marginal d'imposition.
Vite, vite, vite. Allez, faut mettre un coup les gars là. Allez, 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 allez.
Souci d'accroître la compétitivité de prix. La firme doit alors tenir qualité, sinon elle perdra des parts de marché.
Conquérir de nouveaux marchés.
La croissance, c'est l'emploi.
Lutter, c'est vivre.
Le problème, en l'impression.
Il faut redonner le français, le goût du travail.
Allez au boulot, là, vous voyez que je ne voudrais rien faire.
Je vais remettre une petite boîte jusqu'à ce qu'elle fasse 500 grammes, tu vois.
On va se tourner maintenant vers un ministre de l'économie et des finances. Voilà, carrément. Michel Sapin a été ministre de l'économie et des finances entre avril 1992 et mars 1993 dans le gouvernement Pierre Bérégovoy. Il a été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État avec Lionel Jospin. Il est socialiste et spécialiste des... problème évidemment entre autres de fiscalité, ce qui nous intéresse évidemment à l'horizon des élections de 2012 et ce qu'on comprend, enfin ce qu'on essaie de comprendre et de faire comprendre, c'est l'importance politique de la fiscalité et des choix concernant la fiscalité. Michel Sapin.
Michel Sapin, on se trouve dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Vous êtes secrétaire national à l'économie et à la fiscalité au sein du Parti socialiste. Vous avez été ministre de l'économie en 1992 sous Pierre Bérégovoy. On a découvert dernièrement que la troisième fortune de France, Liliane Bettencourt, payait des impôts à hauteur de 9% de ses revenus. Je suis allé à l'hôpital d'Amiens, il y avait un infirmier qui était plutôt aux alentours de 12%. Moi j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Maintenant je suis passé en dessous des 9%. Mais j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Elle a manifestement plus d'enfants à charge. Enfin, comment ça se fait qu'elle paye que 9%. Comment on en est arrivé là ?
Par un processus qui a rendu terriblement compliqué quelque chose qui était très simple. Qu'est-ce qui était très simple ? L'impôt sur le revenu. qui, au départ, dans ses concepteurs, mais jusqu'à ces toutes dernières années, était un impôt sur l'ensemble des revenus que l'on payait, j'allais dire, naturellement, avec un effet progressif, et donc ce qu'on appelle les fameuses tranches, qui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, pouvaient monter jusqu'à 55%. C'était simple. Et puis, il y a eu cette forme de phobie de l'impôt, qui est apparue beaucoup à droite, mais qui parfois était un peu contagieuse et a pu être aussi portée par quelques voix à gauche. Et qui, parce qu'il fallait faire baisser l'impôt sans trop le montrer, donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif, par le mécanisme qu'on qualifie aujourd'hui des niches, arrive à des situations incroyables. Il n'y a qu'une seule solution dans ce domaine, c'est redonner de la simplicité et de la lisibilité à un système fiscal naturel qu'on trouve dans tous les pays du monde, qui est un impôt normal et progressif sur l'ensemble des revenus.
Vous dites, cette phobie de l'impôt, vous l'avez vu s'imposer lentement, par quelles étapes, depuis quand ?
Cette idéologie qu'on a connue, venue des États-Unis, qui consistait à dire, si on rend les riches un peu plus riches, les pauvres vont en profiter. Ça s'est appelé aux États-Unis la théorie dite du ruissellement. Si en haut ils sont plus riches, ça va ruisseler progressivement et ceux qui sont en dessous vont pouvoir s'enrichir. C'est une doctrine qui n'a montré aucunement son efficacité économique, qui, bien entendu, est d'une injustice fiscale extraordinaire et qui, en plus, a appauvri les puissances publiques partout. C'est de là que vient le déficit monstrueux des États-Unis. C'est de là que viennent les déficits de la France. Il y a un chiffre que maintenant beaucoup de gens servent parce qu'il a été élaboré par quelqu'un qui est membre de la majorité, qui est M. Carré, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Il a fait un calcul très intéressant. Il a dit, si on appliquait au jour d'aujourd'hui les règles fiscales qui existaient il y a 10 ans, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il est arrivé à la conclusion que nous aurions 100 milliards de recettes supplémentaires. Ou pour le dire autrement, au cours des 10 dernières années, en tripatouillant à la baisse les impôts, on a privé le budget de l'État et de la Sécurité sociale, accessoirement, de 100 milliards. Vous connaissez peut-être le chiffre du déficit il y a 2 ans. C'était 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, la France aurait pu être à l'équilibre si on n'avait pas subi cette phobie de l'impôt.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Allô ?
Oui ?
Écoutez, je vous appelle en fait parce que j'aurais bien voulu interviewer quelqu'un du ministère des Finances pour un sujet sur les impôts et dont le point de départ est l'affaire Bettencourt. J'ai lu dans la presse qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans.
À Bercy, je m'appelle Bercy, il y a 2 ministères différents et qui sont indépendants. Il y a le ministère de l'économie. Et le ministère du budget. Et tout ce qui est contrôle fiscal, c'est du ressort du ministère du budget. C'est leur job. Enfin, moi, contrôle fiscaux, je ne suis pas ça du tout.
Sur l'effet du bouclier fiscal, je croyais que le bouclier fiscal, c'était seulement quand on payait 50% de ses revenus en impôts. Et là, les spécialistes que j'ai consultés constataient que l'effort fiscal, on va dire, de Liliane Bettencourt était entre 5 et 10%. Quoi.
Attendez, il y a un certain nombre de mécanismes pour les particuliers comme pour les entreprises, pour payer moins d'impôts.
Oui.
Après, vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas.
Comme je me disais que c'était Mme Lagarde qui avait présenté la loi TEPA, dont le bouclier fiscal à l'intérieur, elle aurait peut-être à cœur de défendre cette mesure.
Ben voyons.
Pardon ?
Oui. Mais le problème, ce n'est pas d'être à cœur ou pas, c'est d'avoir le temps. Encore une fois, c'est au ministère du budget, c'est sa responsabilité. Voilà, je vous en prie.
Au revoir. Au revoir, monsieur. Michel Sapin. Alors, vous avez devant vous les échos. Moi, je viens d'Amiens, là, ce matin, j'ai pris le train pour venir d'Amiens. Et j'ai ramené mon quotidien régional, qui est le Courrier Picard. Et le titre du Courrier Picard en une, là, c'est « 18 postes ont disparu dans les écoles ». Le département, toujours confronté à des retards scolaires, perd au final 18 classes à la rentrée. Est-ce que vous faites un lien entre cette une du Courrier Picard, 18 postes ont disparu dans les écoles, et les baisses d'impôts ?
Bien sûr que le lien existe, même si on aimerait tellement qu'il n'existe pas. On aimerait tellement pouvoir dire les uns les autres, il faut plus de profs et moins d'impôts. Enfin, chacun voit bien que les services publics, l'action publique, la sécurité sociale, solidaire, c'est financé par quoi ? Par les impôts et les cotisations sociales. Et au fond, le degré de civilisation d'une société se mesure au niveau de solidarité, au niveau de construction entre les hommes et les femmes sur un même territoire, de quelque chose qui les relie entre eux, tous ensemble, avec les impôts que nous payons et en contrepartie la santé dont nous disposons, les transports publics dont nous disposons, les écoles dont nous disposons.
Il y a un discours de Nicolas Sarkozy qui m'a paru assez emblématique. Ça date du 12 juillet 2010. Dans un premier temps, il dit « Nous avons diminué les postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans dans le budget 2011. Nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. » Et tout de suite après, il entame « Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement. »
Il y a des espèces de tics de langage. On ne parle pas des professeurs. On ne parle pas des policiers, des gendarmes, ou des infirmiers, ou des infirmières. On parle des fonctionnaires. Comme si, lorsqu'on supprime un poste sur deux de fonctionnaires à la retraite, on supprimerait un sur deux bureaucrate obscur, gris et triste, ne faisant rien dans son bureau. Mais la moitié des fonctionnaires de l'État, ce sont des agents de l'éducation nationale. Donc quand vous diminuez le nombre des fonctionnaires, vous commencez d'abord et avant toute chose par diminuer le nombre des profs. Et après, ça a des conséquences dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Même un secteur qu'on croyait protégé dans l'esprit, dans la tête de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, qui est celui de la sécurité, paye son tribut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la principale caractéristique de la politique de sécurité du président de la République, c'est d'avoir fait diminuer de 9000 le nombre des gendarmes et des policiers sur le terrain. Après, on peut toujours avoir des grands discours sécuritaires sur ceci, sur cela. Mais la sécurité, c'est aussi au quotidien, c'est aussi sur le terrain. Il faut encore des jeux de mots. Les fonctionnaires, c'est triste, on n'aime pas ça. Mais les policiers, on en veut plus. Les gendarmes, on en veut plus. Les profs, on en veut plus. Et pourtant, il y en a aujourd'hui moins.
Et pour faire passer le déficit de la France sous la barre des 3%, combien de millions de postes de fonctionnaires il faut supprimer ?
Le chiffre est connu. Lorsque vous supprimez un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite, chiffre du ministère du Budget, vous économisez 500 millions d'euros par an. Lorsque vous baissez la TVA dans la restauration, vous perdez 3 milliards d'euros de recettes. Je fais le calcul. Dans les 5 années de Nicolas Sarkozy, la diminution du nombre des fonctionnaires aura rapporté moins au budget de l'État que la baisse de TVA n'aura coûté au budget de l'État.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci. Prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano.
Vous êtes bien sur la messagerie vocale de Dominique Payet. Merci de me laisser un message avec vos coordonnées si vous voulez que je vous rappelle très rapidement.
Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Oui, bonjour, monsieur le porte-parole de l'UMP. Je suis François Ruffin, journaliste à France Inter. Je prépare un sujet sur les impôts. Là, j'ai lu une donnée par le président du Cercle des fiscalistes qui annonce qu'en France, suite aux réformes du droit de succession, à la quasi-suppression de l'impôt sur les successions, 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'1 euro travaillé. Je le cite, 1 euro hérité est 3 fois moins taxé qu'1 euro travaillé. Donc j'aurais voulu avoir votre réaction sur cette donnée, sachant que le slogan de Nicolas Sarkozy était « Travailler plus pour gagner plus ». Est-ce que ça serait « Hériter plus pour gagner plus » ? Voilà. Eh bien, écoutez, si vous pouvez me rappeler, je vous remercie beaucoup, Monsieur Payet. Voilà, bon après-midi, au revoir.
C'était une nouvelle version du reportage de François Ruffin diffusé en septembre 2010